Bienvenue chez vous sur France Bleu La Rochelle. Chloé Bidet.
Il est 10h05, merci d'avoir choisi France Bleu La Rochelle. Bienvenue chez vous, c'est votre émission. Chaque matin, pendant une heure, on découvre des parcours de vie, des passions, des métiers, celles et ceux qui font l'activité de notre région. Notre invitée est arrivée tout récemment dans la région avec un parcours professionnel riche qu'on va évoquer ce matin. Elle est notamment thérapeute de couple et pour les familles, mais aussi formatrice, animatrice en communication d'entreprise, notamment à La Rochelle.
Bonjour.
Bonjour Julie Devlecki.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous sur France Bleu. Alors, toute première question, qu'est-ce qui vous a mené vers notre belle région et qu'est-ce qui vous a poussé à venir vous installer ici?
Je pourrais dire l'intuition. Une intuition comme ça, en réalité, ça fait longtemps que je connais la région. C'est difficile de pas aimer. Et je me suis toujours vue habiter ici. Je me suis toujours dit, un jour, j'irai vivre à La Rochelle. Et puis, on dit c'est l'occasion qui fait le larron. Voilà.
C'était le grand saut, vous êtes partie d'une toute autre région, un peu plus loin quand même.
Un peu plus loin, 700 kilomètres de Lille, exactement, je viens du nord de la France, après 46 ans de bons et loyaux services lillois, j'ai décidé d'aller favoriser mon environnement pour aussi répondre à un besoin. Besoin de vivre près de l'océan, besoin de me ressourcer, besoin de m'éloigner, voilà, besoin de nouveau.
Avec plein de belles choses, et notamment ce côté thérapeute de couple et de la famille, spécialisé en hypnose ericksonienne. Qu'est-ce que c'est que l'hypnose ericksonienne?
Alors l'hypnose, c'est un outil extraordinaire qui est malheureusement peu ou mal connu, qui n'a pas toujours bonne presse, et pourtant, en tout cas pour moi, dans mon histoire, c'est vraiment l'outil qui a transformé et ma vie perso, et ma façon de travailler. L'hypnose, c'est un état de conscience modifié. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire la vaisselle ou de lire un bouquin ou même d'écouter de la musique et de vous sentir à la fois là et en même temps un petit peu ailleurs. Bon, ça c'est déjà un état de conscience modifié. L'hypnose ericksonienne, le nom ericksonienne vient de son fondateur Milton Erickson, qui a une vision spécifique de l'hypnose. C'est-à-dire qu'elle peut être suggestive, et donc on va aller travailler en profondeur des suggestions pour déconstruire des croyances et remettre des croyances qui sont plus saines, plus écologiques, on va utiliser ce terme d'écologie assez facilement, et plus écologiques voilà, pour la personne, pour qu'elle puisse trouver elle-même ses solutions dans son propre inconscient.
Vous l'avez déjà utilisé à titre personnel avant de vous former, du coup, c'est ça qui était le déclencheur pour vous en vous disant « Tiens, il faut absolument que je le mette moi aussi en place pour ce que je reçois ».
Alors, moi je suis thérapeute depuis 6 ans, thérapeute du couple et de la famille depuis 6 ans. L'hypnose est arrivée un petit peu plus tard dans mon parcours. Au départ, je trouvais ça génial, mais j'étais un peu réfractaire. Je me disais « Mais celui qui va m'hypnotiser, les panés, clairement, je suis tellement résistante et tellement dans le mental que pas moyen, sur moi, ça marchera pas ». Et puis, ça m'attirait. J'ai eu la possibilité d'avoir un financement de formation parce que j'avais pas utilisé toutes mes heures de DIF. Et donc, droit individuel à la formation. Et en fait, dans le catalogue, je suis allée à un week-end découverte de l'hypnose ericksonienne. Et là, ça a été une claque monstrueuse. J'étais monstrueusement positive. La formatrice à qui j'ai dit, je vous préviens, m'hypnotiser, moi, c'est pas possible. Bon courage et bonne chance. Et en fait, en 5 minutes, pouf, c'était parti. Et voilà, c'est sûr qu'elle a accueilli mes propos avec un large sourire. Et puis finalement, j'ai passé un week-end vraiment extraordinaire. Ça a fini de me convaincre et je me suis dit je veux en savoir plus. Je veux savoir pourquoi tout le monde dit ça marche ou ça marche pas, et moi qui étais convaincue que ça allait pas marcher, en fait ça marche. Je pense qu'en fait c'est tellement un état naturel, l'état de conscience modifié, que ça ne peut pas ne pas fonctionner. C'est surtout une question de relation de confiance entre le thérapeute et l'hypnotisé, donc client, patient, quel que soit le courant d'accompagnement, et voilà où ce sont les limites de compétences du thérapeute aussi, parfois, sans vouloir dénigrer non plus, mais je pense que tout simplement parfois il y a des sujets sur lesquels on ne se sent pas à l'aise d'accompagner, et parfois aussi c'est la résistance de la personne qu'on accompagne qui est trop forte, la personne n'est pas prête au changement. Et c'est OK.
On va continuer à parler de votre parcours et de ce que vous faites aussi aujourd'hui. Julie Devlecki est notre invitée. Dans un instant, on va découvrir votre bonne adresse qui va nous emmener du côté de Lumeau pour parler de la ferme ostréicole Bonin. Carole Bonin sera également à nos côtés. Notre invitée ce matin, c'est Julie Deblicky, qui est notamment thérapeute de couple et de la famille installée à La Rochelle. Julie, vous avez choisi, comme chaque invité qui prend place dans ce studio, de mettre en avant une bonne adresse et vous avez décidé de nous emmener à Loumaux aujourd'hui. Alors, pourquoi et comment vous avez découvert cette bonne adresse?
Alors, par un heureux hasard, si tant est que le hasard existe, je promenais mon chien, tout oui. simplement, chemin de la Sartière, puisque j'habite Loumaux. Et donc Loumaux, petit village adorable, première couronne de La Rochelle. Et je tombe sur un matin sur une dame super sympa avec son chien. Nos chiens sont devenus copains. Ben non, on s'est mis à papoter.
C'est un bon lien.
Voilà, c'est très bon moyen de créer du lien, effectivement. Voilà, on s'est raconté nos petites vies de femmes. On a papoté. Puis en fait, donc de fil en aiguille, elle m'a présenté l'établissement qui était juste en face de nous, qui est du coup une structure familiale. L'établissement Bonin. Et donc elle m'a invitée à l'opening, à la réouverture privée de cet endroit. Et là, je crois que j'ai mangé les meilleures huîtres de ma vie, dans un contexte simple, intimiste, avec un accueil vraiment les bras grands ouverts, en toute simplicité. Ça m'a vraiment beaucoup plu, autant par la qualité des produits que par la qualité de l'accueil. Voilà.
Vous aimiez les huîtres avant d'arriver dans la région?
Ah oui, j'ai pas découvert non plus avec les huîtres Bonin, mais disons que c'était une bonne surprise, un bon moyen de me dire bienvenue.
Carole Bonin est avec nous pour nous en parler. Bonjour Carole.
Oui, bonjour.
Une jolie rencontre.
Oui, alors. Oui, tout à fait.
Avec Julie, donc ça c'était il y a quelques mois. On va parler un petit peu des huîtres, du coup, de ce que vous proposez. Vous, du coup, la ferme Ostréicole, c'est une ferme familiale. Ça fait longtemps que ça existe?
Oui, c'est une ferme familiale qui existe depuis 1958, précisément. Et donc, je représente la quatrième génération. Mon arrière-grand-père était déjà implanté, mais là, plutôt sur Bourse-Franc. Et puis, c'est mon grand-père qui est venu s'installer sur Loumaux, dans les anciens marais salants, qu'il a fait creuser à la main. Et ensuite, les choses ont suivi leur cours. Et aujourd'hui, on poursuit cette aventure, l'entreprise familiale.
C'était une évidence pour vous de reprendre le flambeau comme ça sur la quatrième génération, ou est-ce que c'est arrivé plus tard dans votre carrière?
C'est arrivé bien plus tard, bien sûr. C'est un peu comme les agriculteurs. Mes parents étaient pas tellement chauds pour que les filles reprennent l'activité. C'est très physique, très dur. Bon, bien sûr. Et donc moi j'ai fait des études. Et puis finalement, de fil en aiguille, au moment où justement mes parents devaient se séparer de cette activité, hein, puisqu'il fallait passer à autre chose, la retraite notamment. Et c'est là qu'on s'est dit, mais on ne peut pas lâcher ce lieu qu'on affectionne particulièrement, c'est très familial. Donc on y a nos racines. Et donc c'était très important pour nous de garder ce lieu et puis de le faire vivre et surtout de continuer l'ostréiculture. Et donc c'est comme ça que on s'est relancé dans cette aventure depuis 2012.
Et comment ça se passe? Est-ce que vous y aviez travaillé en étant plus petite? Forcément vous avez baigné dans cet environnement où il a fallu se former aussi.
Oui, tout à fait. Voilà, de toute façon, c'est dans les familles comme ça, souvent ostréicultrices, c'est vrai que très rapidement, on met la main à la pâte, comme on dit, le triage, aller faire les marées, tourner les poches, voilà. Donc tout ça, on l'apprend très très vite, on participe au travail très jeune, et puis ensuite, on se forme sur le tas, quoi, en fait. Hein.
Qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui dans votre quotidien, dans votre métier?
C'est le contact avec la nature, clairement. C'est un produit qui se fait avec la nature. On ne peut pas faire sans. Donc toutes chaque année est différente. Le temps, le climat. Aujourd'hui, il y a des choses qui changent beaucoup. Hein, le climat évolue. Donc c'est sans cesse. Il faut s'adapter. Il faut trouver des solutions. Et voilà. Puis c'est travailler dans la nature, le marais ostréicole, la mer. Enfin voilà, c'est tout un ensemble qui fait que ça rend le métier passionnant, en tout cas.
Vous allez nous en parler dans un instant de votre savoir-faire et des affinages en clair. Carole, vous restez avec nous sur France Bleu La Rochelle, la ferme ostréicole Bonin qui est située donc à Loumaux. Il y a aussi des visites qui sont possibles sur place. On va tout vous raconter en détail dans quelques instants avec Julie Deblicky également, qui est notre invitée, qui est à nos côtés, qui est thérapeute de couple et de la famille à La Rochelle et qui est là aussi pour partager son expérience et son métier. On va jouer et vous offrir maintenant vos places, 4 places pour aller voir Yannick Noah en concert. Ce sera le samedi 25 mai à l'Arena du Futuroscope.
La vie c'est maintenant.
Yannick Noah, donc, qui sera de passage à l'Arena du Futuroscope, puisqu'il y a le passage de la Flamme Olympique à Poitiers. Ce sera le samedi 25 mai. On a 4 places pour vous et les personnes de votre choix. C'est un concert France Bleu. Mais pour ça, il faut nous dire dans quel sport a excellé le fils de Yannick Noah, Joachim Noah. Yannick Noah, on l'a vu plutôt dans le tennis. Mais Joachim, est-ce que lui, il a plutôt fait du tennis, du basket ou du football? Dans quel sport a excellé le fils de Yannick Noah, Joachim Noah? Tennis, basket ou foot? À vous de nous le dire au 05 46 50 60. 67-68, on a 4 places à vous offrir pour aller voir donc Yannick Noah le 25 mai à l'Arena du Futuroscope. 05 46 50 67 68, bonne chance à vous. Et c'est Annette qui est avec nous de Pigneul-sur-Mer. Bonjour Annette.
Oui, bonjour Chloé.
Comment ça va sous ce rayon de soleil temporaire mais qui est bien?
Ça fait du bien, c'est très, très agréable aujourd'hui, effectivement.
Complètement.
J'espère que ça va durer.
Bah, à partir de mercredi, ce sera mieux, donc on va patienter un petit peu. On n'est pas à l'abri d'une averse ou deux entre demain et aujourd'hui, mais bon.
Encore.
Qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui, Annette?
Ah, alors j'étais un petit peu surprise. Bien, j'avais pas prévu grand-chose, mais j'ai quand même un petit peu de ménage à faire.
Oui.
Donc voilà. Et puis quand même, comme je fais de la, je prends des cours de bachata.
Oh, j'ai génial.
Une petite choré à réviser là, donc je vais travailler la choré. Et puis peut-être une petite sortie cet après-midi.
Ça fait longtemps que vous en faites de la bachata?
Oh, c'est juste une première année, non, c'est nouveau. J'ai plutôt fait du rock par le passé, mais voilà, cette année, avec mon mari, on fait de la bachata.
C'est génial, on est plutôt sur une ambiance un peu plus latino, quoi, par rapport au
oui,
rock.
Voilà. Avec Baila Comingo.
Et ça vous plaît?
Oui, c'est très agréable. Hein. La musique est douce. Oui, c'est agréable.
Bon, vous allez peut-être aller danser sur la musique de Yannick Noah le samedi 25 mai, à condition d'avoir la réponse à cette question. Dans quel sport a excellé son fils, Joachim Noah? Est-ce que c'est en tennis, en basket ou en foot?
Eh bien, c'est en basket.
Effectivement, en basket, et plutôt aux États-Unis. Bah, Yannick Noah, c'est pour vous.
Voilà. Eh bien, je suis enchantée.
Vous l'avez déjà vu?
Oui, une fois au Francofolie.
Et alors, si vous aviez passé un bon moment, je suppose, là, si vous appelez pour tenter votre chance.
Oui, j'aime beaucoup cette personne et voilà, ce qu'il chante, tout me plaît. Voilà.
Et bah, profitez-en bien, ce sera le samedi 25 mai, donc à l'Arena du Futuroscope, à l'occasion du passage de la Flamme Olympique à Poitiers.
D'accord.
Bravo Annette, et belle journée.
Bien, merci beaucoup, bonne journée aussi.
À très bientôt. 10h25, on va continuer à parler, à échanger avec nos invités. Julie Deblicky, qui est thérapeute et qui est à nos côtés, qui a choisi de mettre en avant donc la ferme ostréicole Bonin à Loumo. Carole est toujours à nos côtés pour nous en parler. Julie, qu'est-ce qui vous a plu, tiens, dans les huîtres de Carole et de la ferme Bonin? Elles ont une saveur particulière qui vous a séduite?
Oui, alors moi j'aime les huîtres fermes. Pas trop laiteuse justement. Et là, ce que j'aime beaucoup dans les huîtres Bonin, c'est le goût très minéral qu'on retrouve, un peu comme quand on boit un petit verre de Chablis minéral. Voilà, ou des fois on boit du vin blanc et on ne sait pas si c'est le vin blanc qui a le goût des huîtres ou les huîtres qui ont le goût de vin blanc. Bah là, j'ai retrouvé cette saveur-là. Vraiment quelque chose qui est très frais. C'est difficile à décrire. Mais voilà, j'aime autant le vin frais et sec que cette saveur très très iodée et très minérale dans les huîtres. Et voilà, donc j'ai retrouvé ce goût-là et tous les autres produits que j'ai pu déguster chez eux aussi étaient tout aussi qualitatifs. La maillot maison, enfin c'est plein de petits détails en plus de l'accueil chaleureux qui font qu'on a envie d'y retourner. Et surtout, il y a quand même une vue imprenable, et ça il faut le dire, parce que tant qu'on n'y est pas allé, on peut pas savoir. Il y a une vue imprenable sur tous les marais ostréicoles qui donnent jusqu'à Lens de Pampin, avec un coucher de soleil quand on y va le soir qui est juste incroyable.
Ah, ça compte aussi. Bah oui.
Mais oui, c'est un bon spot pour les dates. Je dis ça en bonne thérapeute de couple.
Carole, parlez-nous du coup du savoir-faire. Forcément, quatrième génération, il y a un savoir-faire qui s'est transmis de génération en génération. C'est quoi la spécialité de la ferme ostréicole Bonin à Loumo?
Alors la spécialité, bah, c'est un petit peu le savoir-faire de Marennes-Oléron. Hein, c'est comme ma famille est issue de cette région, enfin de ce coin où on pratique l'affinage. Du coup, bah, en effet, on perpétue ça, donc on continue à faire de l'affinage. Et donc c'est ce qui donne le fameux petit goût de noisette qui fait un peu la différence sur une huître de pleine mer habituelle, où on fait, voilà, on laisse affiner au moins 3, 4, 5 mois. On essaye même de pousser un peu plus. Et le goût de l'huile change à ce moment-là, ça lui donne le fameux petit goût de noisette qui fait la différence. Après, chaque terroir, c'est un peu comme le vin, on retrouve un peu, selon la région, les huîtres, elles ont un goût différent. Donc là, pour le coup, c'est vraiment ce savoir-faire et cette pratique-là qui permet de, bah, voilà, de faire le petit plus pour nous, en tout cas. Voilà.
Et ça permet de déguster de bonnes huîtres. Et vous êtes lancé aussi dans les crevettes ?
Oui, on s'est lancé dans la crevette impériale du Marais Charentais. Ça fait notre quatrième année. On essaye de, voilà, de s'améliorer. C'est une pratique qu'on découvre. Donc ça, c'est vraiment un plus pour nous aussi. C'est assez complémentaire avec les huîtres parce qu'une fois qu'on a pêché les crevettes, eh bien, quand on met les huîtres dans les clairs où il y a eu des crevettes, eh bien, on, voilà, aussi, il y a une, on arrive à avoir une grande qualité de chair. Elles sont bien charnues, bien fermes. Et donc, bah voilà, ça c'est un vrai plus aussi. Et donc, voilà, on en apprend tous les jours aussi sur cette pratique-là. Voilà.
Et comment ça se passe une visite alors quand on vient vous voir? Qu'est-ce que vous nous montrez? Qu'est-ce qu'on découvre?
Alors les visites, alors nous on propose, alors donc pour faire un petit peu l'histoire, il y a un petit historique des huîtres parce qu'il y a plein de petites anecdotes bien sympas à connaître. Et puis ensuite, bon, on explique la naissance d'une huître, de son captage jusqu'à sa commercialisation. Et on fait un petit focus bien sûr sur l'affinage et on visite le site. Donc on a 3 hectares de marais sur lesquels on se balade et on explique comment fonctionne un marais ostricole, comment on fait de l'affinage. Voilà, comment on fait valanguer nos clairs. Enfin voilà, on explique vraiment en détail toute la technicité pour arriver à obtenir une certaine qualité. En tout cas, voilà.
Et on termine par une petite dégustation.
Et voilà, et il y a la dégustation qui va avec. À la suite de tout ça, une fois qu'on a tout expliqué, et ben voilà, devant le marais, sur le marais, on peut goûter les huîtres. Et puis bon, avec le petit verre de vin blanc qui va bien.
Avec puis, modération, le petit verre.
Avec modération, pardon, avec modération. Et puis voilà, puis il y a autre chose. Voilà, pour ceux qui n'aiment pas trop les huîtres, c'est vrai, tout le monde n'aime pas forcément les huîtres. En tout cas, voilà, on propose aussi des crevettes, des bulots, rillettes de sardines.
De quoi bien voilà. Se régaler. Quand est-ce qu'on peut venir vous voir, du coup, à la cabane pour participer aux visites ou tout simplement venir déguster? Quand est-ce que vous êtes ouvert, Carole?
Alors, la dégustation, elle est ouverte hors saison, on va dire, entre guillemets, c'est tous les week-ends, du vendredi soir au dimanche midi. La semaine, c'est ouvert aussi, il faut nous passer un petit coup de fil, parce qu'on est un peu plus sur l'exploitation, donc on a besoin d'avoir un petit rendez-vous. Et puis, à partir de juillet et août, on sera ouvert du mercredi soir au dimanche soir pour la dégustation pendant les 2 mois pour la pleine saison. Voilà. Pour les visites aussi, hein, c'est pareil. On passe un petit coup de fil. On se donne rendez-vous. 2 personnes, 4 personnes, un petit groupe, il n'y a pas de problème. On s'adapte. On propose, il n'y a pas un minimum, pas de problème, on accueille tout le monde.
Rendez-vous à la ferme ostréicole Bonin à Loumeau, donc pour avoir cette belle vue sur les marais en plus et profiter d'une belle balade. Merci Carole de nous en avoir parlé ce matin sur France Bleu. À très bientôt.
Merci beaucoup, merci Julie.
Merci.
Avec plaisir Carole. On va continuer
à bientôt.
Avec Julie, donc, qui est thérapeute de couple et de la famille, mais qui a aussi d'autres compétences et d'autres cordes à son arc avec son métier. Elle nous en parle dans un instant sur France Bleu La Rochelle, puisqu'elle est notre invitée jusqu'à 11h.
10h-11h, bienvenue chez vous sur France Bleu La Rochelle. Chloé Bidet.
Bienvenue chez vous, c'est l'occasion de découvrir celles et ceux qui font les deux Charentes. Chaque jour, pendant 1 heure, on les reçoit, on échange autour de leur parcours, de leur passion et de leur métier. Notre invitée du jour est spécialisée dans la thérapie relationnelle, notamment pour le couple et la famille. Mais pas que, Julie Deblicky est avec nous jusqu'à 11h. On va remonter un petit peu dans le temps, Julie. Mm-hmm. Quand vous avez grandi dans le Nord et que vous êtes lancée dans les études, vous étiez partie pourquoi initialement? Quelles envies professionnelles est-ce que vous aviez?
Alors, grandir, tout est relatif, hein, puisque je ne dépasse pas le 1m60. Mais mon premier métier, c'était fleuriste décoratrice. En bon profil atypique que je suis, j'étais en échec scolaire. Et donc mes parents, un peu désespérés, savaient pas trop ce que j'allais faire, mais j'étais déjà très créative, j'étais pleine d'idées déjà à l'époque. J'ai toujours eu un univers très poétique, très intérieur, le côté un peu perché dans mes pensées, etc. Et donc j'ai traduit ça au travers d'un métier créatif que j'ai exercé pendant 18 ans. Et très rapidement, à 18 ans, j'étais déjà manager en boutique parce que je pense que dans mon tempérament, il y a ce côté fédérateur et cette force, ce besoin de transmettre qui était très fort chez moi. Donc je suis devenue formatrice en boutique pour les apprentis. Et puis j'étais aussi missionnée sur les grands décors, donc les décorations pour les journées du patrimoine dans les églises, ce genre de choses, ou même pour les mariages. Donc j'ai fait ça pendant très longtemps, jusqu'à la naissance de mes filles. Voilà, donc ça a été une bonne tranche de vie, hein, puisque j'ai commencé très jeune par un CAP, puis un BP. Et puis je suis allée jusqu'au niveau maîtrise, mais je n'ai pas passé la maîtrise, puisque j'ai été sollicitée professionnellement avant. Et voilà, donc j'ai continué jusqu'à l'âge d'être maman, jusqu'à ouais, une bonne trentaine d'années.
C'est ça le déclic qui fait qu'on change de vie professionnelle ou pas du tout, c'est la coïncidence qui fait que la naissance de vos filles est arrivée avec d'autres changements?
Bah, c'est plus une relation de cause à effet entre la faisabilité du métier, enfin en tout cas entre l'exigence du métier et la réalité de mon terrain. C'est-à-dire que avec deux bébés, quand on bosse tous les week-ends, le dimanche midi, et que tout le monde se repose quand nous on travaille, c'est-à-dire je fais référence aux jours fériés, aux fêtes, etc. Moi, j'en avais assez de pas passer de temps avec mes bébés. Elles étaient toutes petites, puis elles sont très rapprochées. Et du coup, très rapidement, je me suis dit, en fait, ça va pas le faire de terminer à 20h passées tous les soirs et de pas être là le week-end. Ça va être compliqué. Et puis aussi, un élément qui a été encore plus déclencheur pour moi, c'est mon divorce il y a 16 ans, où je me suis retrouvée du coup seule à élever deux petites puces en bossant dans le commerce. C'est vite devenu impossible. Mon salaire passait dans les modes de garde. C'était un vrai Tetris, un parcours du combattant pour... j'organisais mes semaines à la semaine. Donc je vous laisse imaginer la charge mentale et le niveau de stress que c'était pour moi. C'est vite devenu impossible. Et puis j'avais déjà largement fait le tour de ce métier. Mais c'est pas évident en fait de se dire là je suis dans une boutique, je vois les heures passer, j'en ai marre, je m'éclate plus. C'est quoi demain? Qu'est-ce que je vais devenir en fait?
Et forcément il y a eu d'autres plans et plein de projets. On va en parler dans un instant sur France Bleu La Rochelle avec vos différentes spécialité, vous avez accompagné aussi sur ce côté formation professionnelle dans les entreprises. Julie Devlicky est avec nous sur France Bleu. Elle est notre invitée dans Bienvenue chez vous. On vous parle ce matin du parcours de notre invitée sur France Bleu, Julie Devlicky, qui est avec nous après une première vie dans un univers plus floral. Donc, vous étiez fleuriste, vous avez décidé donc du coup de changer de vie, notamment pour pouvoir aussi être à la maison pour vos filles qui étaient toutes petites. À ce moment-là, est-ce que c'était une évidence sur la réorientation de savoir ce qu'on veut faire comme métier quand on décide de tout changer comme ça?
Il y avait une évidence sur mes envies et puis une autre évidence sur la réalité qui était mon manque de diplôme à l'époque. J'étais spécialisée dans ce que je faisais mais j'avais pas un parcours classique de bac, etc. Donc c'était vraiment compliqué. Mais mon évidence était déjà de me dire j'ai besoin de transmettre, j'ai besoin d'être dans l'accompagnement. Depuis toujours, je suis très sensible à la sociologie, la psychologie et l'humain de manière globale. Voilà, un côté profondément humaniste dans ma façon d'être et d'aborder aussi mes métiers différents. Et puis le fait d'être de baigner dans la petite enfance, puisque il a fallu que je développe pas mal de ressources en élevant seule mes deux filles. Faire face aussi, c'est un peu quand on vit ce genre de parcours de vie où on se prend un peu des uppercuts et une réalité qui est frappante, qui est mon métier me plaît plus, j'ai deux bébés sous le bras, je fais quoi concrètement? On vit cette injustice un peu en se disant je suis pas forcément soutenue, j'ai pas eu la chance d'avoir une famille soutenante sur ce sujet-là et donc des fois on a envie de se mettre en PLS dans son canapé et que quelqu'un vienne nous sauver parce que c'est difficile et puis finalement c'est là qu'on développe des ressources parce qu'on se dit de toute façon j'ai pas le choix, si je veux y arriver je peux me mettre en PLS mais à mes risques et périls et puis disons il y a deux petites bouches à nourrir qui ont rien demandé et qui n'ont pas à en subir les conséquences. Et là, je trouve que c'est là que une étoile est née dans ma tête, hein, je veux dire par là, c'est que ben oui, c'est là le combat des mamans solo et que je suis admirative de la force qu'on est capable de déployer, de l'intelligence émotionnelle, relationnelle, intellectuelle qu'on est capable de déployer et de mettre au service du bien-être de nos enfants. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, voilà, c'est ça que j'ai envie de transmettre. C'est comment on va mettre toute cette éducation, cette bienveillance, cette évidence de bienveillance dans l'éducation au service d'un plus grand nombre. Et donc, j'ai commencé à me sensibiliser en allant dans un lieu qui s'appelle le Café des Enfants, à Lille, qui n'existe plus aujourd'hui, qui était basé sur un projet associatif comme ce qu'on appelle aujourd'hui un tiers-lieu, qui s'appelle le Café Zoïde à Paris. Je me suis dit, bah en fait, voilà, c'est un lieu multiculturel, polyculturel, où on s'ouvre à l'éducation bienveillante, on sensibilise les parents aux nouvelles vagues de la parentalité, enfin nouvelle entre guillemets, c'est-à-dire nouvelle conscience de la bienveillance dans la parentalité, dans l'éducation. Et en fait, de là, tout a découlé un parcours très cohérent pour moi, qui était, voilà, c'est ça que je veux faire. Donc, à partir de là, j'ai commencé à me faire accompagner beaucoup par beaucoup d'associations. Et puis, en parallèle, j'ai repris mes études, une VAE, un CAP Petite Enfance en candidat libre, une formation d'assistante maternelle, et puis une formation approfondie en petite enfance. Et de là a découlé un projet de structure éco-pédagogique en petite enfance, voilà, avec deux associés. Donc je voulais pas d'un système pyramidal et hiérarchique, donc on a monté un système horizontal où on a pu travailler au même niveau, on a pu être salarié aussi des parents, puisque quand on est une asso, bah c'est compliqué d'être salarié de sa propre asso. Donc tout ça, c'est des schémas auxquels je me suis confrontée. Ça a été très 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 formateur pour moi. Et puis après presque 10 ans de bons et loyaux services en structure petite enfance, je me suis rendu compte que les personnes que j'accompagnais le plus dans le quotidien, c'était surtout les couples et les familles, et que c'était là que quelque chose était en train de naître à l'intérieur de moi.
Et du coup, un parcours de thérapeute kiné après tout ça. On va l'évoquer dans quelques instants. Julie Debliqui est notre invitée ce matin sur France Bleu La Rochelle. 10h47, Julie Debliqui est avec nous sur France Bleu pour nous parler de son parcours et de son histoire installée à La Rochelle en tant que thérapeute de couple et de la famille. On y était il y a quelques instants après cette deuxième carrière dans la petite enfance. Vous décidez de vous lancer en tant que thérapeute parce que finalement vous étiez déjà dans l'accompagnement pendant ce cycle de la petite enfance de votre vie.
Ouais, tout à fait. En fait, à force d'accompagner des couples dans leurs défis de vie, c'est-à-dire souvent le baby clash après la naissance d'un enfant, parfois même le deuil d'un bébé et un autre enfant qui arrive derrière, et on sent les projections de peur, panique, avec des parents qui sont du coup vraiment dans la difficulté à faire confiance. J'ai très vite été confrontée au besoin de développer d'autres outils d'accompagnement que simplement celui d'être une structure d'accueil. Et c'était déjà aussi un souhait personnel, hein. J'aurais pu très bien ne pas m'arrêter sur ce sujet, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a très vite conquise, enfin dans le sens où ça m'a permis de toucher à ma passion, et aussi parce que moi-même j'ai été confrontée à ça, à ce no man's land d'informations où parfois il y a des infos qui sont un peu nébuleuses ou culpabilisantes, on a toujours peur de mal faire. Et moi-même, j'ai tellement été peu accompagnée dans ce parcours-là, j'ai tellement dû faire face à l'insupportable, même parfois seule, que du coup, je me suis dit, bah voilà, ça c'est pas normal. Il faut qu'on soit, même en tant que professionnel petite enfance, il faut qu'on soit suffisamment aguerri sur ces sujets pour pouvoir aussi accompagner les premiers acteurs les premiers acteurs de la transmission de ce que vont devenir les adultes de demain, qui sont leurs enfants. Et donc c'est à nous de jouer aussi dans ce qu'on va leur transmettre au quotidien et comment on va les accompagner là-dessus.
Du coup, vous faites des consultations à la fois pour la famille et aussi pour les couples, du coup, les aider à traverser toutes sortes d'épreuves.
Oui, du coup, alors ma grille de lecture, c'est la thérapie orientée solution ou thérapie brève systémique que j'ai étudiée pendant 2 ans avant de me spécialiser dans l'accompagnement du couple, tout d'abord, parce que je trouvais intéressant aussi d'aborder la notion de communication dans la relation. Souvent, les couples disent, bah, nous, on a notre problème, on le sait, c'est le problème de communication. Et en réalité, en partant de ce postulat et en me formant là-dessus, je me suis rendu compte qu'au-delà de ça, le dénominateur commun de toutes les problématiques relationnelles, en développant justement la thérapie relationnelle, c'est la problématique de la confiance. Donc la confiance en soi, le niveau de confiance en soi dans la relation, la confiance en l'autre. Et c'est souvent ça, c'est souvent les éléments, les événements de la vie qui vont faire qu'on perd confiance en l'autre, qui vont altérer petit à petit la communication et faire qu'il y a une distance émotionnelle certaine et qu'on n'arrive plus à revenir vers l'autre. Et c'est aussi ce que vivaient les parents de la structure de la crèche dans laquelle j'étais avant. Et donc je me suis dit, tiens, il y a vraiment un sujet et c'est comme ça que j'ai envie d'accompagner les couples. Donc que ce soit une personne individuelle qui vienne travailler sur son couple, un couple qui se sent prêt et en même temps, parce que les deux sont pas toujours prêts en même temps, et qui a envie de bosser, ou même un système familial, c'est, je pense aux familles qui se recomposent, en pensant recréer une famille. En se recomposant, moi, souvent, je casse le mythe, je leur dis, attendez, ça va jamais re-être une famille au sens où vous initial, où vous l'abordez. Ça devient une communauté. Une famille recomposée, ça n'est plus une famille initiale. Et donc, on va redéconstruire un peu les codes ou les attentes sociales et souvent les pressions sociales aussi. De, il faut absolument que je m'entende avec les enfants de mon mari, ou alors il faut absolument que les enfants s'entendent entre eux. Et c'est souvent ça qui va faire naître des conflits. Et mon travail, ça va être de remettre un peu, comme on dit, l'église au milieu du village et de dire non, attendez, on va redéfinir les termes de ça, de ce paradigme, et qu'est-ce que vous voulez voir à l'intérieur et comment on va faire ensemble pour que ce soit possible et qu'il y ait une harmonie qui puisse se redessiner.
Et que chacun puisse trouver sa place.
Exactement.
Donc. Julie, on va parler un petit peu de musique. Est-ce que vous êtes une grande consommatrice de musique? Vous en écoutez au quotidien?
J'allais dire 20 heures sur 24, mais je dors plus que 4 heures par nuit. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas un jour qui passe sans que j'écoute au moins 6 à 8 heures de musique.
Ah oui, quand même, ouais. 6 à 8 heures.
Ouais, j'écoute énormément de musique, et depuis toujours.
Qu'est-ce que vous avez choisi d'écouter ce matin sur France Bleu La Rochelle?
Alors, en tant que grande fan de Fat Freddy's Drop, je partage aujourd'hui un morceau qui s'appelle Deeper Waters, de Joe Ducky, qui est le chanteur de Fat Freddy's Drop, et de Recluse, qui est un groupe collaboratif de ce groupe. Voilà, pour le côté un peu solaire, vacances, qui parle d'une île paradisiaque, donc je vous laisse un peu voyager avec ça, comme si on partait un petit peu dans une induction hypnotique avec une eau translucide et des palmiers, le sable blanc, voilà.
Bon, c'est parti.
Drifting with the tide, like lovers way to some old fashioned tune, changing like the shore. My heart wants to explore. Thought I'd seen it all before until I met you. To go.
Deeper Waters, le choix de notre invitée Julie Deblicky qui est avec nous et qui est donc thérapeute notamment pour le couple et les familles. On termine toujours cette émission avec des envies, des endroits de balade. Vous qui êtes arrivé récemment dans la région, vous avez eu le temps d'explorer un petit peu nos deux Charentes et trouver des petits coins coup de cœur pour se balader?
Déjà là où je suis à Loumeau, il y a largement de quoi faire. Il y a plein de petits sentiers perdus dans la campagne au milieu des champs. Je pense que c'est ça que j'aime le plus du côté du port du Plomb. Il y a une très belle balade à faire tout le long du littoral où on voit vraiment, on voit l'île de Ré, on voit jusqu'à au début de la Vendée. C'est vraiment très très sympa, la pointe de l'Aiguillon. Pour ne citer qu'elle. Et voilà, oui, je dirais Loumeau, hein, je vais être un peu déjà
chauvine
de mon nouveau village de cœur. Et à Loumeau, il y a largement de quoi faire.
Oh que oui, il y a de belles balades à faire partout dans nos deux Charentes. Merci Julie en tout cas d'être venue ce matin sur France Bleu.
Merci de m'avoir reçue.
JulieDeblicky.fr pour retrouver toutes vos activités en tant que thérapeute, mais pas que aussi, vous intervenez notamment auprès d'entreprises. Il y a plein de choses, on retrouve tout donc sur votre site internet.